essayer de ne pas loucher. Voilà, un petit peu, légèrement. Je te remercie. Voilà. Merci beaucoup, Seigneur. Voilà, chers amis, chers bien-aimés, nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous retrouver ensemble. Pour nous aussi, c'est un retour après quelques semaines d'absence. Et je suis heureux de vous proposer en tout cas deux lectures pour commencer dans le livre d'Esdras. Esdras, Ancien Testament, un petit peu avant les psaumes. Esdras, passage qui a déjà été lu il y a quelque temps dans le cadre d'un partage de la parole de Dieu. Esdras au chapitre 7. Esdras, chapitre 7, dont je lirai pour nous tous les 9 premiers versets. Esdras 7, pour le moment les 9 premiers versets. Après ces choses, ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils d'Ilkia, fils de Shalom, fils de Tsadok, et nous pourrions ainsi continuer pour aboutir à fils de Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Verset 6, cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Nous gardons cette page pour la retrouver bien rapidement, tout en allant vers le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, dont j'extrais deux versets dans le cadre de cette description extraordinaire du Christ glorifié, Fils de l'homme, tel qu'elle apparaît dans la vision que reçoit ce vieillard, l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 1, versets 16 et 17. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, sur moi, en disant, « Ne crains point. » Dans la première lecture d'Esdras chapitre 7, vous avez peut-être relevé comme je l'ai fait il y a déjà bien longtemps, cette expression qui revient à deux reprises, verset 6, « Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui », et verset 9, « La bonne main de son Dieu étant sur lui ». Ce qui est intéressant, c'est que, et je le précise dans le texte hébreu, bien qu'il y ait dans ce chapitre aussi toute une partie, la lettre du roi Artaxerxès, qui n'est pas écrite en hébreu, mais qui est écrite en araméen, qui était le langage diplomatique de cette époque. Tout le reste est en hébreu. Et donc, chaque fois qu'il est mention dans ce texte de la bonne main de Dieu, c'est vraiment le texte hébreu qui le dit. Pourquoi est-ce que j'insiste? Tout simplement parce que dans de nombreuses versions, surtout dans les versions actuelles, on a fait disparaître la main de Dieu. On a pensé être suffisamment sage pour pouvoir remplacer l'expression « main de Dieu » par d'autres expressions plus générales. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, en réalité, parler de la main de Dieu nous permet de mieux saisir pratiquement un certain nombre de choses. Dieu est un merveilleux pédagogue. S'il nous a confié un texte dans lequel il est question de la main de Dieu, c'est parce qu'il avait un enseignement à nous donner qui devait être compris de notre part. Et nous sommes des petits-enfants. Nous avons besoin d'images. Et il se trouve que dans Esdras 7 et 8, c'est à 6 reprises que cette petite expression, cette petite locution, la main de Dieu, revient. Elle revient également dans un livre qui est un complément quasi indispensable au livre d'Esdras, le livre de Néhémie, qui le suit d'ailleurs, puisqu'au chapitre 2, deux fois encore, apparaît cette expression, d'ailleurs chaque fois la bonne main de Dieu. 4 fois en fait, dans la totalité des 8 passages, 4 fois il est question de la bonne main de Dieu, et 4 fois de la main de Dieu. Et ça nous fait réfléchir. Quand Dieu se répète, quand Dieu veut enfoncer le clou, quand Dieu veut nous donner un enseignement particulier, quand Dieu veut que nous comprenions, Dieu a l'art de répéter, d'utiliser les mêmes termes. Alors, pour certaines raisons, certaines versions ont pensé pouvoir passer par-dessus, et c'est un peu regrettable. Et je vous encourage à la fois à avoir certaines versions comme celle du Semeur, mais qui, justement, là, est à côté de la plaque, mais de toujours avoir avec vous une version qui essaye de coller au plus près du texte, en quelque sorte, original. C'est important. On part du texte le plus précis des Écritures pour aller vers des traductions qui l'éclairent d'une manière un peu plus spéciale aussi, parfois pour les personnes qui ont plus de difficultés, cela peut tout à fait se comprendre, mais n'oublions pas, nous avons la démonstration ici de l'importance de s'attacher aussi à ces images fortes comme celle de la main de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu utilise, enfin nous venons de le dire partiellement, pourquoi Dieu utilise-t-il cette formulation? Eh bien, bien entendu, Dieu se met à notre portée. Dieu utilise notre langage. Dieu utilise nos réalités pour nous se dévoiler à nos yeux, nous faire comprendre quel rapport il veut entretenir avec nous. Dieu est esprit, nous disent les Écritures. Jean 4, par exemple, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais si je devais maintenant vous parler de Dieu en esprit, j'ai entendu récemment à la radio, sur une chaîne périphérique, une conférence faite par quelqu'un qui expliquait à un auditoire d'étudiants une théologie moderne et qui essayait de présenter le Dieu d'un théologien moderne. Mes amis, j'y ai presque perdu tous mes cheveux. C'était d'une complexité. Et bien entendu, il se mettait le doigt, peut-être même la main, le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'aime la parole de Dieu. J'aime les Écritures parce que Dieu fait l'effort de vouloir absolument nous faire comprendre quel rapport il veut entretenir avec nous. Lui, Dieu qui est esprit, accepte d'utiliser notre langage d'humanité pour que nous soyons à même de le connaître et de comprendre le message, et les messages tellement vastes qu'il a pour nous. C'est ce que l'on appelle en langage plus pointu un anthropomorphisme. Alors morphisme, morphologie, morphé, c'est la forme. Anthropos, c'est l'être humain. C'est pas l'homme masculin, mais c'est l'être humain dans sa totalité. Vous voyez ? Donc, c'est facile à traduire. Dieu se présente sous une forme humaine dans les Écritures, afin que nous soyons à même de le connaître, lui qui est l'insondable, l'insaisissable, n'est-ce pas ? Tellement, tellement loin de nous. Il est séparé de sa création, n'est-ce pas ? Totalement séparé de sa création. Il ne se confond pas avec elle. Mais il veut être près de nous. Et pour être près de nous, il a choisi de nous parler avec un langage qui soit accessible. Et vous savez d'ailleurs, même dans Esdras 5:5, une autre formulation très intéressante, l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. C'est fantastique ça, n'est-ce pas ? Dans une situation tellement difficile, l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Donc, ce Dieu esprit se présente comme ayant main, pied, oreille, bouche, lèvres. Il utilise notre vocabulaire. Et ce texte nous invite à aller au-delà. Parce que, en réalité, Dieu est allé au-delà. Dieu ne s'est pas contenté d'utiliser un langage qui soit compréhensible de l'homme et du croyant. Mais Dieu a pris forme humaine. Ça, c'est le sommet de la communication de Dieu. Dieu est le communicateur le plus extraordinaire. Il dépasse de loin, de manière infinie, les meilleurs communicateurs de notre société. Et il a poussé sa communication à son plus haut sommet lorsque il s'est présenté en Jésus-Christ, dans ce corps humain, n'est-ce pas ? C'est ce que me laisse entendre. Si je transpose Esdras 7 et 8 dans le langage de la Nouvelle Alliance, je vois se profiler derrière ces deux chapitres la personne et l'œuvre du Dieu incarné. Du Dieu venu en Jésus-Christ, au milieu des hommes. On l'a pu le touché. On a pu le voir de près. Il était là, dans un corps de chair, en toute chose semblable à l'homme, hormis le péché. Et je pense à certaines descriptions sur l'incarnation qui sont absolument extraordinaires, mais il nous faut avancer. Mais souvenons-nous que le Fils de Dieu a revêtu volontairement la nature et le corps d'un homme, sans cesser d'être Dieu, il est devenu homme en Jésus. Par amour pour nous, il est devenu, et c'est là que je voulais arriver dans cette introduction, il est devenu le Dieu aux mains percées. Il est devenu le Dieu aux mains percées en mourant sur la croix. Et tout ce que nous allons partager dans la suite de ce partage des Écritures doit conserver comme toile de fond le fait que pour l'éternité à venir, les mains de notre Dieu en Jésus-Christ sont des mains percées. Lorsque Jésus s'est présenté dans son corps de résurrection, il pouvait dire à Thomas, « Mais regarde, mets tes doigts dans les plaies de mes mains, dans mon côté, n'est-ce pas ?» Et je suis absolument convaincu que lorsque nous serons près de lui dans ce face-à-face sublime, du ciel, de sa présence pour l'éternité, nous le verrons comme le Dieu aux mains percées. Ce sera en quelque sorte, je ne dis pas que nous en ayons besoin dans le ciel, mais ce sera de toute manière un rappel permanent que si nous sommes dans les cieux, dans un corps de résurrection, c'est parce que le Fils de Dieu nous y a introduits à cause de ses souffrances expiatoires, de son sacrifice en notre faveur, pour nous rendre favorables au regard de Dieu, aux yeux de Dieu, pour que la colère de Dieu ne descende pas sur nous. Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix. Quelqu'un a écrit « Les mains qui furent percées tournent les roues de l'histoire humaine et façonnent les circonstances dans la vie des individus. » Les mains qui furent percées tournent les roues de l'histoire humaine et façonnent les circonstances dans la vie des individus. Et toute l'histoire de la bonne main de Dieu dans Esdras 7 et 8 et dans Néhémie 2, c'est une histoire qui a pour toile de fond la grâce de Dieu, la générosité inouïe de Dieu, le fait que ce Dieu a accepté de donner son Fils de manière à ce que nous puissions être épargnés des malédictions du péché, et que nous puissions connaître ces bénédictions extraordinaires ici-bas. C'est, bon, disons-le encore, la bonne main de Dieu, c'est donc aussi l'action du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui fait du bien. Jésus disait à ses adversaires que c'était par le doigt de Dieu qu'il chassait les démons. Luc 11, 20. Par le doigt de Dieu. Puissance de Dieu est extraordinaire, n'est-ce pas ? Ici, il est question du doigt de Dieu. Et il y a plusieurs textes dans les Écritures qui évoquent le doigt de Dieu, ou les doigts de Dieu. Dans le psaume 8, il est question des doigts de Dieu, littéralement, dans le texte original, qui ont participé à la création du cosmos et de la terre, n'est-ce pas ? les 10 commandements ont été donnés par le doigt de Dieu. Il y a cette insistance sur le doigt de Dieu. Image, certes, mais image tellement bienfaisante, comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte encore. Quand Jésus prononce les mêmes paroles dans Matthieu 12, 28, c'est exactement les mêmes circonstances, le même auditoire, les mêmes personnes à qui il s'adresse. Il ne dit pas que c'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons, mais il dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. C'est intéressant. Si donc je transpose vers Esdras 7 et 8, nous pouvons dire aussi que Dieu s'est plu par son esprit à bénir, à faire du bien à Esdras et à tous les compagnons, à tous ceux et celles qui l'accompagnaient dans ce qui va nous intéresser maintenant. Ces deux chapitres, 7 et 8, indiquent quatre domaines ou directions d'action de la bonne main de Dieu en faveur de ses enfants. Et je pense que c'est la raison profonde, certainement, pour laquelle Dieu m'a dirigé pour ce matin vers ce contenu d'enseignement. C'est que nous sommes en période stratégique, précisément, peu importe où nous plaçons le curseur du début ou de la fin, tout ça est secondaire, nous sommes devant un programme d'église qui va nous entraîner jusqu'au début de l'été de l'année prochaine, en quelque sorte. Et il va de soi que nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être renouvelés. Les vacances d'été ne sont pas suffisantes pour ça. Nous avons besoin du Seigneur aujourd'hui et maintenant, n'est-ce pas? Alors, nous allons nous pencher sur cet humble témoignage et de reconnaissance d'Esdras. Prenons-le comme le témoignage d'Esdras lui-même. Il est très certainement l'auteur final de ce livre d'Esdras. Même lorsqu'il parle d'Esdras, finalement, c'est de lui qu'il parle. Ça, c'est une chose qui est quasi certaine, n'est-ce pas? Et c'est son propre témoignage de reconnaissance. C'est ce qu'il a voulu, en quelque sorte, de la part de Dieu, laisser à l'histoire. Cette histoire qui est venue jusqu'à nous, Église de Jésus-Christ, aujourd'hui et maintenant. Alors, premièrement, je relis au verset 6, « Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Première direction d'action de la bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu pourvoit à tous les besoins. La bonne main de Dieu pourvoit à tous les besoins. Je pourrais affiner, préciser davantage, pour ne pas m'inscrire dans cette triste perspective du faux évangile de la prospérité, qui peut utiliser une telle affirmation pour aboutir à des raisonnements que nous ne pourrions pas accepter. C'est pourquoi je précise, la bonne main de Dieu pourvoit à tous les vrais besoins. Les vrais besoins. Vous savez, nous ne sommes pas toujours au clair sur nos vrais besoins. Nous pensons, surtout dans nos pays, là où la pauvreté règne, dans des pays qui sont tellement loin de nous sur le plan économique, c'est beaucoup plus simple dans ce domaine. Mais nous nous sommes créés quantité incroyable de faux besoins. Nous pensons que nous ne pourrions pas nous passer d'eux. Et c'est pas si sûr que ça. Et il y a ce que l'on ne peut pas contourner. Nous sommes là, que Dieu nous a placés dans ce monde là où nous sommes, et nous vivons les circonstances et ce que ce monde nous présente dans certains domaines. Mais ce sont les vrais besoins auxquels la bonne main de Dieu pourvoit. Et puis elle y pourvoit à sa manière. qui n'est pas toujours la nôtre, et de surcroît au moment opportun, qui n'est pas toujours le nôtre non plus. Vous voyez, des précisions qui, dans les Écritures, valent pesant d'or pour ne pas nous égarer sur des chemins dangereux. Il y avait, pour le temple de Jérusalem, des besoins immenses. La construction de ce temple de Jérusalem, nous sommes après l'exil, il y a eu donc 70 ans, grosso modo, d'exil, prophétisé à maintes reprises, en particulier par le prophète Jérémie, exil à Babylone, et puis finalement, donc, en 538, un édit impérial de Cyrus, lorsque l'empire babylonien s'est écroulé, qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire d'Israël, et en particulier du petit royaume de Juda. Et donc, 60 ans avant ce chapitre 7, la reconstruction du temple était achevée. D'ailleurs, c'est la fin du chapitre 6, à partir du verset 13, qui évoque l'achèvement et la dédicace du temple. Et nous sommes maintenant donc en 458 avant Jésus-Christ, et Esdras a entrepris une démarche difficile auprès d'un souverain qui n'a pas toujours été favorable à Israël, Artaxerxès, premier, puisqu'il y en a eu d'autres. Comment pouvons-nous affirmer qu'il n'a pas toujours été favorable à Israël? Tout simplement, en nous tournant, mais nous n'allons pas le faire dans les détails, vers Esdras chapitre 4, versets 7 à 23, dans lequel il est question des difficultés d'opposition que les Judéens, en quelque sorte, les Juifs de Juda, ont rencontrées de la part d'ennemis infiltrés, soit de l'intérieur, soit venant de l'extérieur. C'est très intéressant tout cela. C'est un des grands thèmes du début du livre d'Esdras qu'on retrouve dans le livre de Néhémie. En tout cas, quelques années plus tard, les travaux de reconstruction des murailles ont été stoppés par la violence sur l'ordre d'Artaxerxès. C'est-à-dire qu'il a été ici favorable à Israël, mais en d'autres circonstances, à cause des messages reçus, des courriers reçus de la part d'ennemis d'Israël en terre juive, en quelque sorte, il a eu une attitude beaucoup plus négative, et notamment pendant la reconstruction des murailles de la ville, il a ordonné que tout cela soit arrêté, et il y a eu tout un travail de destruction de ces murailles et peut-être d'autres éléments qui s'est opéré. Ça, c'est ce que l'on voit aussi au tout début du livre de Néhémie, au chapitre 1er, dans un rapport qui arrive jusqu'à Néhémie sur la situation de Jérusalem. Donc, rien n'était gagné dans ce domaine. Mais Dieu a disposé favorablement le cœur du roi. Et Néhémie va faire la même expérience une bonne douzaine d'années. Vous verrez cela dans Néhémie chapitre 2, verset 8 et verset 18, où manifestement, non sans peur, non sans angoisse, non sans d'immenses précautions, Néhémie, après des mois de réflexion, de prière, de préparation intérieure et pratique, Néhémie va obtenir l'accord d'Artaxerxès pour pouvoir se rendre à Jérusalem pour poursuivre tout le travail de reconstruction de la ville de Jérusalem. Et il va préciser que c'est à cause de la bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu s'est manifestée dans cet accord de la part d'Artaxerxès avec tout ce qu'il pouvait signifier Et c'est aussi ce qu'il va communiquer ensuite à ceux qui l'entourent lorsqu'il est en train, au chapitre 2, verset 18, il vient de considérer les murailles, il est allé de nuit pour voir l'état, il a fait ça discrètement, mais il a voulu se rendre compte par lui-même de la situation. Et puis ensuite, en bon leader, il va communiquer une vision et finalement, il va dire, voilà, la bonne main de Dieu a été avec moi. Nous devons nous remettre au travail maintenant et on va assister au travail de reconstruction des murailles de la cité elle-même. La main de notre Dieu est une main puissante. La main de notre Dieu est une main puissante. Je pense à cette petite fille qui était allée chez l'épicier faire une commission pour sa maman. Et comme l'enfant se conduisait remarquablement, l'épicier a fait ce qui se faisait très souvent dans notre enfance. Il a proposé à la fillette de plonger sa main dans un bocal au fond duquel il y avait des bonbons. Et puis elle a regardé, elle a hésité, elle n'a rien fait. Alors elle a insisté, mais n'aie pas peur, vas-y, tu sais, oui, vas-y, plonge ta main. Elle dit non. Ah bon, je préférais que ce soit vous qui plongiez votre main, parce que votre main est plus grande que la mienne. La main de Dieu est une main puissante. Nous avons un Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Et vous savez combien l'ennemi fait tout pour essayer de nous le faire oublier. Continuellement, l'ennemi s'arrange pour que nous nous focalisions sur nos problèmes. Et vous savez que quand on se focalise sur ces problèmes, les problèmes poussent, grandissent, se développent, prennent des proportions astronomiques bien loin de la réalité, n'est-ce pas ? Et on oublie que la main de Dieu est une main puissante. La main de Dieu est une main puissante. Je vous encourage dans votre étude personnelle à examiner le texte des premiers chapitres de l'Exode, consacré essentiellement aux 10 fléaux ou aux 10 plaies, vous savez, les fameuses plaies qui ont abouti à la Pâque et à la libération d'Israël du joug égyptien. J'ai relevé 15 mentions de la main de Dieu pour une cinquantaine de mentions totales dans Exode 1 à 16. Cinquantaine de mentions de la main de Dieu et 15 de la main et 15 de la main de Dieu directement. Et il y en a une que j'ai retenue d'une manière particulière, Exode 8, 15. C'est le fléau des moustiques. Si vous avez eu affaire aux moustiques, vous savez ce que ça veut dire. Et quand les magiciens ont voulu produire des moustiques, parce que c'était ça, il fallait riposter à la puissance de Dieu par la puissance des ténèbres. Ben, quand ils ont essayé de fabriquer des moustiques, ils n'y ont pas réussi. Et quelle est l'explication qu'ils ont donnée au Pharaon ? C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le doigt, tout petit, peut-être même celui-ci, n'est-ce pas ? C'est le doigt de Dieu. La puissance de Dieu est infini, infini. Et que cela nous soit rappelé dans ce temps où nous entrons dans une période de reprise d'activité. Nombre 11, 23, la main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Et c'est vrai que pour le brave Moïse, je le comprends, comment faire pour donner la nourriture à 600 000 hommes ? de pieds, c'est-à-dire prêts pour la guerre. 2 à 3 millions d'Israélites dans le désert, vous vous rendez compte? Il a été découragé. Surtout qu'il ne se conduisait pas comme des enfants de cœur. Il y avait des murmures, il y avait de la contestation, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, mais non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Et il a donné. Il faut voir un petit peu la générosité avec laquelle Dieu a répondu. J'ai noté ce commentaire. Pour que le peuple ne meure pas de faim, Moïse aurait eu chaque jour besoin de 1500 tonnes de nourriture pour que les Israélites mangent comme nous sommes habitués à le faire, surtout en France. 4000 tonnes au moins auraient été quotidiennement nécessaires. Il aurait fallu 2 trains de marchandises d'1,5 km de longueur chacun. Donc, au niveau le plus bas, 1500 tonnes de nourriture, au niveau le plus haut, 4000 tonnes, s'il voulait nous ressembler. Vous vous rendez compte, hein, 2 trains de marchandises d'1,5 km chacun. Mais la main de Dieu est puissante. Et ça, c'est ce qu'on apprend, mes bien-aimés, dans la marche avec Christ. Dès la nouvelle naissance, dès que le Saint-Esprit entre dans notre vie, dès que Dieu prend possession de notre vie, nous sommes dans cet apprentissage de découverte de la puissance de la main de Dieu, de la générosité de Dieu, c'est la bonne main de Dieu, de la capacité de Dieu à intervenir dans les circonstances les plus impossibles. Dieu intervient dans nos circonstances impossibles, dans nos impasses. Quelqu'un dit, quand Dieu veut faire un petit miracle, il nous place dans une situation difficile. Quand il veut faire un grand miracle, il nous place dans une situation impossible. Alors peut-être que nous nous privons parfois des miracles du Dieu de l'impossible. Tout simplement parce que vous le savez, que quand on commence à paniquer, on cherche des solutions en dehors de Dieu. Et on se prive à ce moment-là de la révélation dans nos cœurs de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la douceur de Dieu, de cette manière qu'il a d'intervenir juste au bon moment et de la bonne manière. Je repensais en retravaillant tout cela à un court épisode du passé. C'était en 1969, je pense que c'était au printemps, j'étais alors dans l'aumônerie militaire à Trèves, dans le Palatinat en Allemagne, et il était prévu que je me rende dans la Ruhr, au-delà de Cologne, dans la région industrielle allemande, pour y rencontrer un couple de chers bien-aimés. Et je devais y aller pour un week-end, et je savais que c'était vraiment le plan de Dieu, mais je n'avais que l'argent du train aller. Je n'avais pas l'argent du train de retour. Et de manière puissante et insistante, Dieu a insisté en disant, vas-y, tu prends ton billet pour l'aller et moi je vais m'occuper de ton retour. Mais toi, tu ne dis rien. Le dimanche soir est arrivé, et comme j'étais un militaire appelé, même dans l'aumônerie militaire, il ne fallait pas exagérer et faire n'importe quoi sur le plan des permissions. Donc je savais qu'à telle heure, il fallait que je sois rentré au quartier général à Trèves. Mon ami, qui a un mois de plus que moi, nous sommes de la même année, presque du même mois, mon ami m'a raccompagné à la gare, et je n'avais toujours pas d'argent, toujours pas de billets. Nous sommes arrivés sur le quai où le train allait venir, on a annoncé la proche arrivée du train, et puis il est arrivé un moment où simplement, je n'ai rien dit. Il m'a dit, mais Maurice, tu as ton billet. Je lui ai dit, non. Il est parti comme un TGV, même s'il n'existait pas encore à cette époque. Il a ramené le billet, le train était arrivé, il était à quai entre temps, hein. Il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit, tu sais, Maurice, je n'ai jamais d'argent liquide en poche. C'est pour moi une règle. Mais cette semaine, toute la semaine écoulée, j'avais de l'argent en poche parce que je cherchais à trouver une nouvelle paire de chaussures. Je suis allé dans X magasins. Et c'est comme ça que je me suis souvenu tout à l'heure que j'avais de l'argent en poche. Dieu savait. Oh, il a eu ses chaussures, parce qu'il est encore en vie maintenant, on s'aime bien, on se connaît bien. Mais quand nous en avons reparlé récemment, il avait les larmes aux yeux. Et c'est un homme de Dieu qui a été l'administrateur de la Ligue pour la lecture de la Bible pour la Suisse romande pendant des années. Dieu est fidèle. C'était... Dans un sens, c'était une toute petite chose, hein. Mais c'était tellement important. Et c'est comme ça que Dieu nous apprend peu à peu, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il ne faut pas se lancer en tant que tête brûlée dans n'importe quoi, n'importe comment, n'est-ce pas? On le fait parce qu'on marche avec le Seigneur, de très près. On lit sa parole, on la médite. On la rumine, on s'entretient avec Dieu, de manière à être sensible à tout ce qu'il nous explique. Parce qu'alors Dieu peut créer en nous des convictions, et des convictions qui résistent aux attaques qui se produisent ensuite, n'est-ce pas? Dieu insiste, Dieu approfondit, Dieu enfonce le clou. Pour que nous soyons certains que ce n'est pas un travail bête de notre imagination, qu'on est en train de se fourvoyer complètement, comme ça arrive, hein, quand on est léger dans ce domaine, on veut faire à Dieu des miracles qu'il ne fera pas. Mais Dieu pourvoit. La bonne main de Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oh, j'ai... En relisant le psaume 139, justement ce dernier jour, il y a été fait allusion tout à l'heure, j'ai revu ce verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Et il y a un commentaire que j'ai retenu, que je vous lis. « Tu poses ta main sur moi. » Ayant une si parfaite connaissance de nos besoins matériels et moraux, Dieu s'approche pour nous secourir. Le psalmiste n'a pas constaté sans inquiétude cette intervention de Dieu dans sa vie. Il dit que Dieu l'a cerné par derrière et par devant, comme on encercle une troupe ennemie pour la contraindre à capituler sans combat. Puis, lui ayant coupé toute retraite, Dieu a posé sa main sur lui. En effet, dans son amour compatissant pour sa créature coupable, il veut la saisir, la tirer de l'abîme où elle est tombée, la porter comme le berger porte sa brebis retrouvée. Ce geste d'amour, le psalmiste ne l'a compris qu'après coup. Au moment même, il a eu peur de perdre son indépendance, peur d'être à la merci du Dieu Tout-Puissant. Un commentateur a écrit « Dieu fait régulièrement ce qui nous semble irrégulier. » Irrégulier, ça ne veut pas dire en désaccord avec sa personne, avec son caractère et sa volonté. Mais ce qui nous apparaît à nous peut-être même contradictoire, problématique. Nous ne pouvons pas discerner, mais ça nous semble tellement anormal, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Seigneur, toi, eh oui, eh bien, Dieu est comme ça. Nous avons un Dieu absolument extraordinaire. C'est Charles de Foucault qui a écrit « Jésus est maître de l'impossible ». Jésus est maître de l'impossible. Et je me souviens d'une carte, ça nous arrive assez souvent, reçue il y a quelques années, juste avant que nous entreprenions notre sixième et dernier séjour au Sénégal. Et plus les années passent, plus les séjours outre-mer peuvent nous apparaître difficiles, parce que c'est tout un effort d'adaptation climatique, etc., etc., n'est-ce pas? Et donc, c'était un travail de Dieu dans ma propre vie. Et puis est arrivée une carte d'une chère sœur en Christ qui priait vraiment pour nous et qui, justement, parlait de la main de Dieu. Et la partie illustration, c'était une main, jolie main, avec une pensée de cette femme de Dieu, Corrie ten Boom. Les mains de Dieu sont douces, même si ses chemins sont durs. Les mains de Dieu sont douces, même si ses chemins sont durs. Et nous pouvons témoigner au fil de ces dernières années combien nous avons reçu de la douceur de Dieu dans les chemins difficiles sur lesquels nous sommes passés. Voyez-vous, Artaxerxès avait un surnom, le numéro 1 des Artaxerxès. Le 2 avait un autre surnom. Le numéro 1, c'est Artaxerxès longue main. Dieu a la longue main. Beaucoup plus longue. Et pourtant, Artaxerxès a été appelé, tout comme Nebuchadnezzar avant lui, le roi des rois. Parce qu'il régnait sur quantité de grandes provinces, qui étaient d'ailleurs des pays, en quelque sorte. Donc il était roi sur quantité incroyable de rois, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui a véritablement la longue main, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Proverbe, chapitre 21, verset 1er. Alors je vais vous donner, simplement, parce que le temps a passé, puis je n'ai pas voulu cavaler, je vais simplement vous donner les directions d'action, les trois autres directions d'action de la bonne main. Peut-être qu'on aura l'occasion une fois d'y revenir, mais je vous les laisse, parce que vous pouvez aussi chercher dans les Écritures ce que cela peut comprendre, et puis faire un lien avec la Nouvelle Alliance. C'est toujours ce qu'il faut faire lorsqu'on lit ces textes, voir comment ils se concrétisent dans la Nouvelle Alliance, dans les textes du Nouveau Testament, et puis comment on peut les appliquer à notre vie de tous les jours, parce que c'est aussi pour ça que l'Ancien Testament nous a été donné, tout comme le Nouveau Testament, n'est-ce pas ? C'est une révélation de Dieu complète qui est extraordinaire lorsque on l'apprend de A à Z, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Deuxièmement, la bonne main de Dieu fortifie. C'est ce qui est dit au chapitre 7 et au verset 28. « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partent avec moi. » Fortifié, fortifié. Et qui sait si nous avons besoin d'être fortifiés. Pensez à tout ce que signifiait ce voyage pour Esdras. C'était un défi énorme, n'est-ce pas? Il allait partir avec 5000 personnes, au total. Pour un voyage de 1500, 1600 kilomètres, parce qu'on ne pouvait pas aller tout droit, jusque à Jérusalem. Il fallait contourner ce grand désert central, n'est-ce pas ? Donc partir par le nord et puis redescendre, ce que Abraham avait fait dans le sens contraire, et ça doublait pratiquement la distance, n'est-ce pas ? Et puis alors, ils étaient chargés des tonnes d'or, d'argent, etc. N'est-ce pas ? Des femmes, des enfants, et que sais-je encore, vous imaginez ? Eh bien, ce qui est beau, c'est que la main de Dieu l'a fortifié, lui a donné la force nécessaire pour qu'il puisse relever en quelque sorte ce défi tellement écrasant. Troisièmement, la bonne main de Dieu désigne des collaborateurs. Chapitre 8, versets 15 à 18. « Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ahavan, campagne 3 jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. » Alors, il est question de la manière dont procède Esdras. Il va envoyer un certain nombre de personnes vers un chef, Iddo, demeurant à Cassifia, c'est pas très loin de Babylone. Et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens, ceux qui servaient, les subalternes qui servaient dans le temple, ils étaient les aides des Lévites qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, oh que j'aime ça, homme de bon sens. Homme de bon sens. Et puis un tas d'autres personnes. Ceci est expliqué jusqu'au verset 20, comment la bonne main de Dieu désigne les collaborateurs, ceux avec lesquels on va travailler. Et je pense que là aussi, dans une église locale, mes amis, il faut avoir une vision. Il y a des besoins, il faut précisément des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui soient prêts à s'engager. Et quand la bonne main de Dieu est à l'œuvre dans une église locale, Dieu donne aussi dans ce domaine, en son temps, à sa manière et pour les vrais besoins. Et enfin, quatrièmement, chapitre 8, verset 31, « La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi, de toute embûche pendant la route. La bonne main de Dieu protège et délivre du danger. » La bonne main protège et délivre du danger. En soulignant simplement, c'est que ce n'est pas toujours du danger ou des attaques ou des embuscades, mais elle protège aussi dans l'épreuve. Ça, c'est l'enseignement de l'ensemble des Écritures. Soit que Dieu nous épargne, soit qu'il est avec nous dedans. Et dans le fond, ce qui est le plus important, mes bien-aimés, c'est que Dieu soit avec moi. Lorsque je suis attaqué, lorsque c'est dur, lorsque je me pose des questions, lorsque je ne sais pas vers quoi je vais dans mon itinéraire purement humain, ah, l'essentiel, Seigneur, c'est que tu sois avec moi, que tu sois présent. C'est ça ce qui compte, que tu sois dans la fournaise, comme le Fils de Dieu a été dans la fournaise avec les 3 compagnons de Daniel. Nous pensons à Daniel au chapitre 3. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Simplement, je vous laisse cette petite note de chapitre 7, verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car, ça sont les conditions. Tout est grâce, n'est-ce pas ? Mais même quand tout est grâce, il y a des conditions. Et ici, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, littéralement dit l'hébreu, à chercher, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Le triptyque d'une vie chrétienne qui peut s'enrichir en permanence dans la grâce de Dieu. Chercher Dieu, étudier, lire, copier, méditer, c'est-à-dire murmurer à mi-voix. Il y a là des richesses extraordinaires dans ce texte. Et puis mettre en pratique. Vous voyez ce triptyque ? On cherche Dieu. dans sa parole. On la murmure, cette parole. Nous avons suffisamment de murmures négatifs. On la médite. On la recopie. Ça fait partie, ça faisait partie du travail. Et puis on la met en pratique. Et quand on la met en pratique, Dieu nous dit, ben maintenant partage avec les autres. Va avec les autres pour donner ce que tu reçois de moi au fil du temps. Car il y a tellement plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est en donnant que l'on reçoit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous te disons merci Seigneur, ta parole est enthousiasmante. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es en Jésus-Christ le Dieu aux mains percées. Merci Père pour ton Fils bien-aimé. Merci pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci pour sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, mais déjà pour sa vie extraordinaire ici-bas. Merci parce qu'il est à ta droite. Nous attendons son retour. Nous te bénissons pour son intercession comme pour celle du Saint-Esprit. Seigneur, un grand merci pour ta bonne main, Seigneur, que tu veux étendre sur chacun d'entre nous tout au long de chaque jour, y compris dans ces temps qui peuvent être parfois si difficiles. Sois-en béni. En Jésus-Christ. Amen.